Bruyant de lecture. Bruyant de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour ou de découvrir d'autres écrits du même auteur et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc là, on fait une émission d'été, c'est bien ça ?
Exactement.
Vous allez nous lire.
Bah oui, on approche de l'été quand même.
Une nouvelle.
On y est même.
On y est même. Oui.
Pas presque. Oui,
dans
oui,
son intégralité, c'est bien ça ?
Une nouvelle. Tout à fait. Oui. Tout à fait.
Une nouvelle oui. Un petit peu longue, donc qui peut faire plusieurs émissions.
Qui sera en plusieurs épisodes voilà. Tout au long du mois d'août.
On va lire lentement.
Voilà. Un petit mot sur cette nouvelle.
Donc aujourd'hui, dans l'œuvre Foison, parce qu'on avait dit qu'on reprendrait du Eric Emmanuel Schmidt, un peu plus léger que la dernière fois, qui n'est-ce était quand pas. Même fort. Donc dans l'œuvre foisonnante d'Eric Emmanuel Schmidt, nous avons choisi la nouvelle « Odette tout le monde » tirée du recueil éponyme. Le bon est beau, alors autant
éponyme,
l'utiliser.
Bien sûr.
Hein. Ce premier recueil de nouvelles a été publié par Eric Emmanuel Schmidt en 2006, donc ça commence à dater.
Et livre qui a eu pas mal de succès à l'époque, il me semble me souvenir de ça. Et d'ailleurs, mais ça c'est pas moi qui l'invente, c'est tout simplement Eric Emmanuel Schmidt qui le dit à la fin du livre. Il avait d'abord réalisé un film.
Enfin, écrit le scénario.
Écrit le scénario, c'est ça, oui, ouais. Voilà. Et il a tiré la nouvelle à partir du scénario.
Oui,
du
c'est
film.
Vrai que c'est rare.
Et ça, c'est assez rare.
C'est en général l'inverse.
En général, c'est l'inverse.
Oui, oui, oui. Bon, bah, tu vois, on part fort. Donc, alors, dans ce recueil, quand même, pour resituer, dans ce recueil, il y a 8 nouvelles, 8 récits. C'est l'histoire de 8 femmes et 8 histoires d'amour. Et en fait, il nous fait découvrir une galerie de personnages inoubliables en quête du bonheur. C'est original, hein ?
C'est merveilleux. C'est un sujet d'été.
Voilà. Ne vous endormez pas sur vos serviettes de bain sur la plage. Écoutez quand même l'histoire.
Et comme la nouvelle est un petit peu longue, hein, on peut dire, ouais. Catherine, entre ouais, 40 et 45 pages.
Oui, presque 47 pages.
Eh ben, on va essayer d'en faire plusieurs émissions.
On va en faire un feuilleton.
Voilà. Enfin bref, on ne va pas s'arrêter et vous laisser en plan. La vie a tout offert à l'écrivain Balthazar Balzan et rien à Odette tout le monde. Pourtant, c'est elle qui est heureuse, lui pas. Leur rencontre fortuite va bouleverser leur existence. Ou leurs existences. Exactement, les deux existences. Mais calme-toi, Odette, calme-toi. Elle était si vive, si impatiente, si enthousiaste qu'elle avait l'impression de s'envoler, quitter les rues de Bruxelles, échapper aux couloirs de façade, passer les toits pour rejoindre les pigeons dans le ciel. Quiconque voyait sa silhouette légère dévaler le mont des arts sentait que cette femme, dont une plume ornait les boucles de cheveux, avait quelque chose d'un oiseau. Elle allait le voir, mais pour de vrai, s'approcher de lui, le toucher peut-être s'il lui tendait la main. Oh, calme-toi, Odette, calme-toi. Alors qu'elle avait plus de 40 ans, son cœur s'emballait aussi vite que celui d'une adolescente. À chaque passage clouté qui la contraignait d'attendre son tour sur le trottoir, des picotements parcouraient ses cuisses, ses chevilles menaçaient de s'élancer. Elle aurait voulu sauter par-dessus les voitures. Lorsqu'elle arriva à la librairie, s'allongeait la file des grands jours. On lui annonça qu'il fallait patienter 45 minutes avant de se présenter devant lui. Elle saisit le nouveau livre dont les libraires avaient élevé une pyramide d'exemplaires aussi belle qu'un arbre de Noël et commença à déviser avec ses voisines. Si toutes étaient des lectrices de Balthazar Balzan, aucune ne se révélait aussi assidue, précise et passionnée qu'Odette. C'est que j'ai tout lu de lui, tout, et tout aimé, disait-elle pour s'excuser de sa science. Elle ressentit une grande fierté à découvrir qu'elle connaissait le mieux l'auteur et ses œuvres. Parce qu'elle était d'origine modeste, parce qu'elle travaillait comme vendeuse le jour et plumassière la nuit, parce qu'elle se savait médiocrement intelligente, parce qu'elle venait en bus de Charleroi, ville minière désaffectée, il ne lui déplut pas de se découvrir parmi ces bourgeoises bruxelloises une supériorité, sa supériorité de fan. Au centre du magasin, trônant sur une estrade auréolée par des spots qu'il éclairait autant que les plateaux télévisuels dont il était familier, Balthazar Balzan se livrait à la séance de dédicace avec une bonne humeur appliquée. Après 12 romans et autant de triomphes, il ne savait plus s'il aimait ou non ses signatures. D'un côté, ça l'ennuyait, tant l'exercice est répétitif et monotone. D'un autre, il appréciait de rencontrer ses lecteurs. Cependant, ces temps-ci, la fatigue l'emportait sur l'appétit de discussion. Il continuait plus par habitude que par désir. Se trouvant à ce point difficile de sa carrière où il n'avait plus besoin d'aider à la vente de ses livres, mais où il craignait qu'elle ne baisse. Leur qualité aussi. Peut-être, au demeurant, venait-il avec son ultime opus d'écrire le livre de trop, celui qui n'était pas singulier, celui qui n'était plus aussi nécessaire que les autres. Pour l'heure, il refusait de se laisser contaminer par ce doute, car il l'éprouvait à chaque publication.
Par-dessus les visages anonymes, il avait remarqué une belle femme, une métisse habillée de soie fauve et mordorée, qui, à l'écart, marchait seule de long en large. Quoique absorbée par une conversation téléphonique, elle jetait de temps à autre des œillades pétillantes à l'écrivain. « Qui est-ce ? » demanda-t-il au responsable commercial. « Votre attaché de presse pour la Belgique, voulez-vous que je vous la présente ? S'il vous plaît. » Ravi d'interrompre la chaîne des signatures pendant quelques secondes, il retint la main que Florence lui tendait. « Je vais m'occuper de vous pendant quelques jours, » murmura-t-elle troublée. « J'y compte bien, » confirma-t-il avec une chaleur appuyée. Les doigts de la jeune femme répondirent de manière favorable à la pression de la paume. Une lueur d'acquiescement traversa ses prunelles. Balthazar sut qu'il avait gagné, il ne passerait pas la nuit seul à l'hôtel. Ragaillardi, déjà en appétit débat sexuel, il se tourna vers la lectrice suivante avec un sourire d'ogre en lui demandant d'une voix vibrante. « Alors, madame, que puis-je pour vous ?»
Odette fut si surprise par l'énergie virile avec laquelle il s'adressait à elle qu'elle en perdit instantanément ses moyens. Elle est incapable d'articuler un mot. Balthazar Balzan la regarda sans la regarder, aimable, de façon professionnelle.
« Avez-vous un livre sur vous ?»
Odette ne bougea pas, quoiqu'elle détint un exemplaire du « Silence de la plaine » contre sa poitrine.
« Voulez-vous que je vous signe le dernier ?»
Au prix d'un effort colossal, elle parvint à esquisser un signe positif. Il avança la main pour s'emparer du livre. Se méprenant, Odette recula, marcha sur la dame suivante, comprit sa méprise et brandit soudain le volume d'un geste brusque qui manqua de le blesser à la tête.
« À quel nom ? » ?»« C'est pour vous. »
Odette approuva du front.
« Quel est votre nom ? Votre prénom ?»
Odette, risquant le tout, ouvrit la bouche et murmura en déglutissant. « Dette. »«
Pardon ?»«
Dette. » De plus en plus malheureuse, étranglée au bord de la syncope, elle tenta d'articuler une ultime fois. « Dette. »
Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt rebuttal standing there. Found my transcendence, it played in mono painted blue. Back on me, but I won't fall this time.
Quelques heures plus tard, assis sur un banc, tandis que la lumière se grisait pour laisser l'obscurité remonter du sol au ciel, Odette ne se résolvait pas à rentrer à Charleroi. Consternée, elle lisait et relisait la page de titre où son auteur préféré avait inscrit « Pour dette ». Voilà, elle avait raté son unique rencontre avec l'écrivain de ses rêves et ses enfants allaient se moquer d'elle. Et ils auraient raison. Existait-il une autre femme de son âge incapable de décliner son nom et son prénom ? Sitôt qu'elle fut montée dans le bus, elle oublia l'incident et commença à léviter pendant le trajet de retour, car dès la première phrase, le nouveau livre de Balthazar Balzan l'inonda de lumière et l'emporta dans son monde en effaçant ses peines, sa honte, les conversations de ses voisins, les bruits de machines, le paysage triste et industriel de Charleroi. Grâce à lui, elle planait. Revenue chez elle, marchant sur la pointe des pieds afin de ne réveiller personne, enfin, afin surtout d'éviter qu'on la questionne sur sa déconfiture, elle se mit au lit, assise contre ses oreillers, face au panorama qui, collé au mur, représentait des amants en ombre chinoise devant un coucher de soleil marin. Elle ne parvint pas à se détacher des pages et n'éteignit sa lampe de chevet après avoir achevé le volume.
De son côté, Balthazar Balzan passait une nuit beaucoup plus charnelle. La belle Florence s'était donnée à lui sans embarras, et devant cette Vénus noire au corps parfait, il s'était contraint à se montrer bon amant. Tant d'ardeur avait exigé des efforts et lui avait fait sentir que, pour le sexe aussi, il accusait la fatigue. Les choses se mettaient à lui coûter. Et il se demandait s'il ne s'engageait pas malgré lui dans un tournant de l'âge. À minuit, Florence voulut brancher la télévision pour suivre la célèbre émission littéraire qui devait vanter son livre. Balthazar n'aurait pas accepté si ce n'avait pas été l'occasion de jouir d'une trêve réparatrice. Le visage du critique littéraire redouté, Olaf Pims, apparut sur l'écran et par je ne sais quel instinct, Balthazar sentit immédiatement qu'il allait être agressé. Derrière ses lunettes rouges, des lunettes de matador qui s'apprête à jouer du taureau avant de le tuer, l'homme prit un air ennuyé, voire écœuré.
On me demande de chroniquer le dernier livre de Balthazar Balzan. D'accord. Si au moins cela pouvait être vrai. Si l'on était sûr que c'est le dernier, alors ce serait une bonne nouvelle. Car je suis atterrée. Du point de vue littéraire, c'est une catastrophe. Tout y est consternant. L'histoire, les personnages, le style. Non mais se montrer aussi mauvais, mais mauvais avec constance, mauvais avec égalité, ça devient même une performance. C'est presque du génie. Si l'on pouvait mourir d'ennui, je serais mort hier soir. Dans sa chambre d'hôtel, nue, une serviette autour des reins, Balthazar Balzan assistait, bouche bée, à sa démolition en direct. À ses côtés, sur le lit, Florence, gênée, gigotait tel un asticot cherchant à remonter à la surface. Olaf Pims poursuivit paisiblement son massacre. Je suis d'autant plus gênée de dire cela qu'il m'est arrivé en société de croiser Balthazar Balzan, un homme aimable, gentil, propre sur lui, au physique un peu ridicule de prof de gym, mais un individu fréquentable. Bref, le genre d'homme dont une femme divorce agréablement. Avec un petit sourire, Olaf Pim se tourna vers la caméra et parla comme s'il se trouvait soudain en face de Balthazar Balzan. Quand on a autant le sens des clichés, monsieur Balzan, il ne faut pas appeler ça roman, mais dictionnaire, oui. Dictionnaire des expressions toutes faites, dictionnaire des pensées creuses. En attendant, voilà ce que mérite votre livre. La poubelle est vite. Olaf Pims déchira l'exemplaire qu'il tenait à la main et le jeta avec mépris derrière lui. Balthazar reçut ce geste comme un uppercut. Sur le plateau, choqué par tant de violence, le présentateur demanda « Mais enfin, mais comment expliquez-vous son succès ?»« Les pauvres d'esprit ont bien le droit d'avoir eux aussi un héros. Les concierges, caissières et autres coiffeuses qui collectionnent les poupées de foire ou les photos de crépuscule ont sans doute trouvé l'écrivain idéal. »
Florence coupa la télévision et se tourna vers Balthazar. Eût-elle été une attachée de presse plus expérimentée, elle lui aurait servi ce qu'on doit objecter en ces occasions. C'est un aigri qui ne supporte pas la vogue de tes livres. Il les lit en songeant que tu racoles tes lecteurs. Par conséquent, il repère le démagogique dans le naturel, soupçonne l'intérêt commercial sous la virtuosité technique, prend ton désir d'intéresser les gens pour du marketing. De plus, il se condamne en traitant le public de sous-humanité indigne, son mépris social se montrant même ahurissant. Cependant, jeune, Florence restait influençable. Médiocrement intelligente, elle confondait méchanceté et sens critique. Pour elle, la messe était dite. C'est sans doute parce qu'il sentit le regard méprisant et désolé de la jeune femme sur lui que Balthazar entama ce soir-là une phase dépressive. Des commentaires hargneux, il en avait toujours essuyé. Des yeux de pitié, jamais. Il commença à se sentir vieux, fini, ridicule.
Depuis cette nuit, Odette avait relu 3 fois Le silence de la plaine et l'estimait un des meilleurs romans de Balthazar Balzan. À Rudy, son fils coiffeur, elle finit par avouer sa rencontre ratée avec l'écrivain. Sans rire d'elle, il comprit que sa mère souffrait. Qu'attendais-tu ? Que voulais-tu lui dire ? Mais que ces livres ne sont pas seulement bons, mais qu'ils me font du bien. Les meilleurs antidépresseurs de la Terre. Ils devraient être remboursés par l'assurance maladie. Eh bien, si t'as pas su lui dire, tu n'as qu'à lui écrire. Oh, tu trouves pas ça bizarre que j'écrive, moi, un écrivain ? Bah, pourquoi bizarre ? Mais une femme qui écrit mal, écrivant un homme qui écrit bien ? Bah, y a des coiffeurs chauves, hein ? Convaincue par le raisonnement de Rudy, elle s'installa dans le salon salle à manger, remisa un instant ses ouvrages de plume et rédigea sa lettre. « Cher monsieur Balzan, je n'écris jamais car, si j'ai de l'orthographe, je n'ai pas de poésie. Or, il me faudrait beaucoup de poésie pour vous raconter l'importance que vous avez pour moi. En fait, je vous dois la vie. Sans vous, je me serais tué 20 fois. Voyez comme je rédige mal. Une fois aurait suffi. Je n'ai aimé qu'un homme, mon mari, Antoine. Il est toujours aussi beau, aussi mince, aussi jeune. C'est incroyable de ne pas changer comme ça. Faut dire qu'il est mort depuis 10 ans. Ça aide. Je n'ai pas voulu le remplacer. C'est ma façon de l'aimer toujours. J'ai donc élevé seule mes 2 enfants, Sue Hélène et Rudy. Rudy, ça va, je crois. Il est coiffeur, il gagne sa vie, il est joyeux, gentil. Il a tendance à changer de copain trop souvent, mais bon, il a 19 ans, il s'amuse. Sue Hélène, c'est autre chose. C'est une maussade. Elle est née avec le poil hérissé. Même la nuit, dans ses rêves, elle râle. Elle sort avec un crétin, une sorte de singe qui bricole des mobilettes toute la journée mais qui ne ramène jamais un centime. Depuis 2 ans, il loge chez nous. Et en plus, il a un problème. Il pue des pieds. Franchement, ma vie, avant de vous connaître, je la trouvais souvent moche. Moche comme un dimanche après-midi à Charleroi quand le ciel est bas. Moche comme une machine à laver qui vous lâche quand vous en avez besoin. Moche comme un lit vide. Régulièrement la nuit, j'avais envie d'avaler des somnifères pour en finir. Puis un jour, je vous ai lu. C'est comme si on avait écarté les rideaux et laissé entrer la lumière. Par vos livres, vous montrez que dans toute vie, même la plus misérable, il y a de quoi se réjouir, de quoi rire, de quoi aimer. Vous montrez que les petites personnes comme moi ont en réalité beaucoup de mérite parce que la moindre chose leur coûte plus qu'aux autres. Grâce à vos livres, j'ai appris à me respecter, à m'aimer un peu, à devenir l'Odette tout le monde qu'on connaît aujourd'hui. Une femme qui ouvre ses volets avec plaisir chaque matin et qui les ferme chaque soir aussi avec plaisir. Vos livres, on aurait dû me les injecter en intraveineuse après la mort de mon Antoine. Ça m'aurait fait gagner du temps. Quand un jour, le plus tard possible, vous irez au paradis, Dieu s'approchera de vous et vous dira « Il y a plein de gens qui veulent vous remercier du bien que vous avez fait sur terre, Monsieur Balzan. Et parmi ces millions de personnes, il y aura Odette tout le monde. Odette tout le monde qui, pardonnez-lui, était trop impatiente pour attendre ce moment-là. Odette. » À peine avait-elle achevé que Rudy sortait en trompe de sa chambre où il flirtait avec son nouveau petit copain. Ils avaient juste pris le temps de se couvrir d'un caleçon et d'une chemise tant ils avaient hâte d'annoncer à Odette que, selon Internet, Balthazar Balzan donnerait bientôt une autre séance de dédicace à Namur. C'est pas trop loin d'ici. Bah, ainsi, tu pourras lui porter ta lettre.
Thank you.
Balthazar Balzan n'arriva pas seul à la librairie de Namur. Son éditeur ayant quitté Paris pour lui soutenir le moral, ce qui avait eu comme résultat principal de le déprimer davantage.
« Si mon éditeur passe plusieurs jours avec moi, c'est que ça va très mal », se disait-il. Effectivement, les critiques telles des loups chassent en bande. L'attaque d'Olaf Pims avait déchaîné la meute. Ceux qui avaient retenu leur grief ou leur indifférence contre Balzan se lâchaient désormais. Ceux qui ne l'avaient jamais lu avaient quand même des rancœurs à exprimer contre le succès. Et ceux qui ne pensaient rien en parlaient aussi lorsqu'il fallait participer à la polémique. Balthazar Balzan se montrait incapable de répliquer. Il ne jouait pas sur ce terrain. Il détestait l'offensive et manquait d'agressivité. N'étant devenu romancier que pour changer sa vie, la beauté, sa complexité, s'il pouvait s'indigner, c'était pour de grandes causes, par la sienne. Son unique création était de souffrir en attendant que ça passe, au contraire de son éditeur qui aurait aimé exploiter cette effervescence médiatique. À Namur, les lecteurs l'attendaient en moins grand nombre qu'à Bruxelles, car en quelques jours il était devenu ringard, d'apprécier Balthazar Balzan. Celui-ci se montrait d'autant plus aimable avec ceux qui s'aventuraient vers lui.
Ignorant ses agitations puisqu'elle ne lisait pas les journaux ni ne regardait les émissions culturelles, Odette n'imaginait pas que son écrivain vivait des heures si sombres. Pimpante, habillée moins chic que la première fois, encouragée par le verre de vin blanc que Rudy l'avait forcé à ingurgiter au café d'en face, elle se présenta en frémissant devant Balthazar Balzan. « Bonjour, vous me reconnaissez ?»
Oui, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, nous nous sommes vus, voyons... l'année dernière, aidez-moi donc. »
Nullement vexée, Odette préférait qu'il ait négligé sa prestation ridicule du mardi précédent et le libéra de ses recherches. « Non, je blaguais, nous ne sommes jamais vus. »
« Ah, il me semblait bien. Sinon, je m'en serais souvenu. À qui ai-je l'honneur ?»«
Tout le monde. Odette, tout le monde. »
« Pardon ?»«
Tout le monde, c'est mon nom. » À l'énoncé de ce patronyme comique, Balthazar pensa qu'elle se moquait.
Vous plaisantez ?
Pardon ? Réalisant sa gaffe, Balthazar se reprit.
Eh bien, dites-moi, c'est original comme nom.
Pas dans ma famille. Odette présenta un nouvel exemplaire à dédicacer. Pouvez-vous simplement marquer « Pour Odette » Balthazar, discret, voulut être sûr d'avoir bien entendu.
Odette ?
Oui, ça, mes parents ne m'ont pas raté.
Allons. C'est ravissant, Odette.
Oh, c'est épouvantable.
Mais non.
Mais si.
C'est Proustien. Proustien, à la recherche du temps perdu. Odette de Crécy, la femme dont Swann est tombé amoureux.
Je connais que des caniches qui s'appellent Odette. Des caniches. Et moi. D'ailleurs, sur moi, tout le monde l'oublie, ce prénom. Pour qu'on s'en souvienne, il faudrait peut-être que je mette un collier et que je me fasse friser. Il l'examina par certains. Pas certain d'avoir bien entendu, puis éclata de rire. Se penchant, Odette lui glissa une enveloppe. « Tenez, c'est pour vous. Lorsque je vous parle, je ne dis que des bêtises, alors je vous ai écrit. » Odette s'enfuit dans un bruissement de plumes.
Lorsqu'il se cala au fond de la voiture qui le ramenait en compagnie de son éditeur à Paris, Balthazar fut tenté un instant de lire le message. Cependant, lorsqu'il vit le papier kitsch où s'entrelaçaient guirlandes de roses et branches de lilas retenues par des anges fessus, il ne l'ouvrit pas tout de suite. Décidément, Olaf Pims avait raison, écrivain pour des caissières et des coiffeuses. Il n'avait que des fans qu'il méritait. En soupirant, il glissa néanmoins la lettre à l'intérieur de son manteau en chamois. À Paris, l'attendait une descente en enfer. Non seulement son épouse fuyante, absorbée par son travail d'avocate, ne marqua aucune compassion pour ce qui lui arrivait, mais il constata que son fils de 10 ans était obligé de se battre au lycée contre des petits péteux qui se moquaient de son père. Il recevait peu de messages de sympathie. Jamais du milieu littéraire, peut-être est-ce de sa faute, il ne le fréquentait pas.
Enfermé dans son immense appartement de l'île Saint-Louis, devant un téléphone qui ne sonnait pas, c'était de sa faute aussi, il ne donnait pas son numéro. Il considéra objectivement son existence et soupçonna de l'avoir ratée.
Certes, Isabelle, son épouse, était belle, mais froide, cassante, ambitieuse, riche de manière héréditaire, beaucoup plus habituée à évoluer dans un monde de prédateurs que lui. Ne s'était-il pas autorisé à avoir des liaisons extra-conjugales, indice que le ciment social tenait davantage leur couple que le lien amoureux? Certes, il possédait un logement au cœur de la capitale qui faisait des envieux, mais l'aimait-il vraiment?
Rien sur les murs, sur les fenêtres, sur les étagères, sur les canapés n'avait été choisi par lui. Un décorateur s'en était chargé. Au salon trônait un piano à queue dont personne ne jouait, dérisoire signe de standing. Son bureau avait été conçu pour paraître dans les magazines car Balthazar préférait écrire au café. Il réalisait qu'il vivait dans un décor, pire, un décor qui n'était pas le sien. À quoi avait-il consacré son argent? À indiquer qu'il avait percé, qu'il s'était établi dans une classe dont il ne venait pas. Rien de ce qu'il possédait ne l'enrichissait réellement, quoique tout montrât qu'il était riche. S'il en avait eu une vague conscience, ce dégalage ne l'avait encore jamais rendu malade, car Balthazar était sauvé par la foi qu'il avait dans son œuvre. Or, celle-ci, aujourd'hui, était attaquée. Lui-même doutait. Avait-il rédigé un seul roman valable? La jalousie constituait-elle l'unique raison de ses attaques? Et si ceux qui le condamnaient avaient raison? Fragile, émotif, habitué à trouver son équilibre dans la création, il ne pouvait y accéder dans la vie réelle. Il lui était insupportable que le débat intime qu'il avait toujours porté en lui « Ai-je un talent à la hauteur de celui que je souhaiterais avoir ?» devint public. Au point qu'il finit un soir, après une bonne âme lui eut signalé que sa femme frayait assidûment avec Olaf Pims, par tenter de se suicider.
Quand la bonne Philippine le découvrit inanimé, il n'était pas trop tard. Les services d'urgence parvinrent à lui faire reprendre conscience, puis après quelques jours d'observation, on le plaça en hôpital psychiatrique.
Là, il s'enferma dans un silence bienfaisant. Sans doute aurait-il, après quelques semaines, fini par répondre au psychiatre vaillant et attentionné qui tentait de le libérer si l'arrivée inopinée de sa femme n'avait changé le cours de la cure. Lorsqu'il entendit le bruit métallique de la fermeture automobile, il eut à peine besoin de vérifier par la fenêtre qu'il s'agissait bien d'Isabelle, garant son tank dans le parc. En un éclair, il rassembla ses affaires, attrapa son manteau, brisa la porte qui ouvrait sur l'escalier extérieur, vérifia en dévalant les marches qu'il détenait bien un double des clés, bondit vers la voiture d'Isabelle et démarra pendant que celle-ci prenait l'ascenseur. Il roula plusieurs kilomètres au hasard, à gare. Où irait-il? Peu importait. Chaque fois qu'il imaginait se réfugier chez quelqu'un, à l'idée de devoir s'expliquer, il renonçait.
Elle laisse au hasard les rêves, les chimères abîmées. Elle laisse le brouillard, la pluie et le goudron mouillé. La nuit est grande comme ses yeux.
Thank you.
Eh bien, le suspense va durer jusqu'à la prochaine fois, exact. Puisqu'on vous lira la suite de cette nouvelle qui est un petit peu longue.
La semaine prochaine.
Que la semaine prochaine.
Voilà.
Tout à fait ça.
Quel suspense.
Eh oui, vous allez retrouver Odette et Balthazar.
En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.